OK, si vous voulez me suivre, on va aller dans Apocalypse au chapitre 11, les versets 1 et 2. Apocalypse 11, versets 1 et 2. On me donna un roseau semblable à une verge en disant, « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas. » Car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Alors, si vous voulez vous asseoir. C'est assez... Je disais, cette semaine, je partageais quelque chose à Lucie par rapport à ce passage-là. Excusez, ce qu'il y a?
Juste pour savoir, est-ce qu'il... voyons, il va-tu rester là?
Ah, ben là, s'il si veut s'en aller à sa place...
Non, moi, c'est correct, j'aime quasiment mieux rester ici, si ça ne vous dérange pas, là.
Non, non, ça ne me dérange pas du tout. OK, fait que je voulais juste vous parler que hier, c'est bizarre, parce qu'on est en train d'étudier le passage sur le temple dans l'Apocalypse. Hier, aux nouvelles, j'entends une nouvelle qui dit que Israël... Et quelques pays des Arabes se sont entendus, ils appellent ça l'accord d'Abraham. L'accord d'Abraham, et semble-t-il qu'ils disaient que l'accord d'Abraham, certains croyaient que cet accord-là serait suffisant pour qu'ils puissent reconstruire le temple avec l'accord des Arabes. J'ai lu ça hier soir. Pour moi, c'est complètement nouveau. Je dis, oh, je suis fort. Fait que là, c'est... En tout cas, je veux vous partager ça parce que je trouvais que... Je disais à Lucie, on est en train d'étudier un passage sur le temple. Et là, on est en train d'apprendre des nouvelles que moi, je ne connaissais pas. Là. L'accord d'Abraham, je ne connaissais pas ça du tout. Je n'ai pas entendu parler que ça s'en venait non plus. C'est vrai que je ne suis pas ça plus qu'il faut. Mais c'est intéressant. Parce que si c'est vrai... Ceux qui interprètent le passage comme étant le temple, la reconstruction du temple littéral sur à Jérusalem, à l'endroit où est le dôme du rocher et où est-ce qu'elle est la mosquée de El-Kazakh, qui appelle, quelque chose comme ça, il se produit quelque chose à la terre de spécial. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, juste mentionner ça en passant, parce qu'on est... Là, on est en train de se demander aujourd'hui si le temple dont on parle ici, est-ce que c'est un temple littéral ou si c'est un temple symbolique? La réponse, moi, c'est symbolique. Et c'est parce que, dépendamment de ton système d'interprétation des Écritures, si tu dis que c'est littéral, l'apparition de l'Antichrist et tout ça, ça change tout. Alors, il se produit quelque chose que moi, je ne savais même pas que c'était dans le décor, là. Je veux juste vous le mentionner parce que ça s'appelle l'accord d'Abraham et Donald Trump est en arrière de tout ça, le président d'Israël et quelques pays, des pays arabes, pas tous, mais certains. C'est très particulier comme nouvelle, très, très, très particulier, que les Arabes accepteraient que ça soit enlevé, le dôme du rocher, puis que le nouveau temple dont ils nous ont montré les plans qui ressemblent étrangement à ce que j'ai mis. Étrangement. En tout cas, c'est spécial. C'est très spécial, pour le moins qu'on puisse dire. OK. Ça fait que je veux juste vous demander que ceux qui ont les feuilles, faire une petite correction. Parce que sur la page numéro 1, j'ai marqué la mesure, son définition. En relisant mes notes, j'ai vu que Frius, barré son, mettrait ça. Parce que si on veut écrire un bon français... Il n'y a personne qui m'a écrit encore pour me le dire, mais ça ne me surprendra pas de recevoir un email. Ça ne me surprendra pas.
Oui, ça ne passait pas.
Terrible, hein? J'ai fait une erreur là, monumentale. Je suis allé marquer son, puis j'aurais dû marquer ça. Ah, terrible. OK, donc, on rappelle un petit peu ce qu'on a vu la semaine dernière, le titre que j'avais donné. On va reviser rapidement ce qu'on a vu. Et à partir de où on était rendu, on va terminer. Alors, j'avais donné comme titre, Jean se voit donner l'instrument pour mesurer le temple et rejeter le parvis extérieur. Alors, on va finir ce qu'on avait commencé la semaine dernière. Alors, on avait parlé la semaine dernière, fait dans l'introduction, que trois grands malheurs avaient été annoncés. Cinquième trompette, sixième trompette, la septième trompette avait on sait qu'elle va venir, mais qu'il y avait eu deux chapitres. Le Seigneur a donné la définition de la septième trompette beaucoup plus tard. On appelle ça une parenthèse. Alors, on se demande pourquoi. Alors, on avait parlé la semaine dernière. Si on lit l'Apocalypse 11, versets 14 et 15, là, la septième trompette, elle apparaît. Alors, ça dit, le second malheur est passé. Voici le troisième malheur qui viendra bientôt. Or, le septième ange sonna de la trompette. Et de grandes voix se firent entendre dans le ciel qui disaient, les royaumes du monde sont soumis à notre Seigneur et à son Christ, et il règnera au siècle des siècles. On avait mentionné la semaine dernière, sans rentrer dans les détails, juste une petite révision, vous relirez vos notes, c'est très important. Donc l'importance du choix judicieux de la bonne interprétation. Alors on sait qu'il y a des grandes écoles dans le monde entier de théologie qui interprète les Écritures de façon différente, dépendamment de tes choix de départ. On avait regardé un petit peu la semaine dernière l'importance d'avoir un choix judicieux de la bonne interprétation. On avait regardé Herman Oxema, qui est un réformé que moi j'utilise beaucoup pour bâtir ce qu'on est en train d'écouter ce matin. Joel Bickey, qui est un réformé également, qui les trois viennent dire, puis il y en a un autre, là, Bill. Lui aussi, Bill, c'est un gars qui a écrit une brique de presque 1000 pages sur l'Apocalypse, et il va vraiment dans les détails. Trois bonhommes qui nous disent la même chose. C'est important le système d'interprétation que tu prends pour interpréter le chapitre 11, et particulièrement les deux premiers versets du chapitre 11. Et il avait dit qu'on avait des décisions et des choix qu'on se devait de faire au préalable. On ne peut pas interpréter ça, aller regarder dans trois écoles principales, puis essayer de concilier ça ne se concilie pas. Alors, il faut que ça t'oblige à faire des choix. Moi, le choix que j'ai fait, alors on va nommer les questions. Le passage doit-il être interprété littéralement ou symboliquement? Quand il lui demande de mesurer le temple, est-ce qu'il est en train de parler d'un temple physique, comme celui qu'on veut reconstruire à Jérusalem actuellement, ou est-ce que dans le contexte ici, on va le voir, c'est ça l'idée d'aujourd'hui, ou est-ce que dans le contexte, aujourd'hui, c'est plus un temple symbolique? Moi, le bon choix, et le choix des auteurs que je vous ai nommés un petit peu précédemment, eux disent tout, ça doit être interprété symboliquement. Ensuite, on avait dit, quelle école d'interprétation, la deuxième question qu'on doit se poser, ou le choix préalable, quelle école d'interprétation est la plus harmonieuse avec le reste du livre et l'ensemble de la Bible? Autrement dit, quand tu interprètes, il faut que ça marche avec le reste du livre, puis il faut que ça marche avec le reste de la Bible. Puis oui, on répond que c'est l'école qu'on appelle idéalisme. Alors on a, la semaine passée, on avait regardé un petit peu le tableau à la fin. Très intéressant, regardez ça, prenez le temps de regarder ça parce que vous ne comprendrez jamais la Bible, et plus particulièrement l'Apocalypse, si vous n'avez pas fait votre choix dès le départ. Vous allez voir des auteurs. C'est ça qui est mêlant. Si on ne sait pas ça, là, à un moment donné, on part, puis là, on s'ajoute des commentaires, puis on pense, ah, OK, lui, c'est un protestant, donc c'est correct. Et là, on se met à lire, puis là, lui, il nous dit une affaire, l'autre, nous dit le contraire. On vient complètement mêler. À quelque part, c'est important de prendre tes décisions. Ce n'est pas des décisions qui sont faciles à prendre. Vous essayerez, vous m'en donnerez des nouvelles. C'est des affaires qui sont basées sur du raisonnement. C'est basé sur des passages dans l'Ancien Testament. C'est basé sur toute une multitude. Moi, je ne vous donne pas les détails de tout ça, là, parce que les détails sont dans des livres, mais si vous les voulez, je peux vous les donner. Alors, il y a des choix qui ont été faits, mais ils n'ont pas été faits. Ah, oh, ben moi, c'est comme tu fais tourner une affaire, puis OK, c'est arrivé sur B, c'est arrivé sur C, c'est arrivé sur A. C'est pas une roulette. Il y a des gens qui ont vraiment réfléchi à tous les aspects de ça. Ils ont pris des décisions. Nous, on regarde ce qu'ils ont choisi. On se dit, ça tient-tu debout ce qu'ils disent ou ça tient pas debout? Puis moi, j'ai dit, ça tient debout. Okay. J'ai choisi, moi, le système d'idéalisme parce que c'est plus dans le symbolisme qu'on trouve beaucoup de solutions à beaucoup de problèmes qui sont dans l'Apocalypse. Et il y a une autre règle qui est très importante, parce que la règle dit, est-ce que nous adoptons la règle que l'enseignement du Nouveau Testament éclaire et détermine le sens des passages de l'Ancien Testament. Autrement dit, quand tu es en train d'étudier la Bible, est-ce que les précisions qui nous sont données par le Nouveau Testament, c'est ça qui va nous éclairer pour comprendre ceux de l'Ancien Testament? Ou l'inverse? Si tu fais l'inverse, ce qui crée beaucoup de problèmes dans l'interprétation des Écritures, ça ne marche pas. La plupart des conservateurs que je connais vont dire, on interprète les versets de l'Ancien Testament à la lumière de ce qui nous est révélé plus en profondeur dans le Nouveau. Autrement dit, c'est de donner priorité, précédence au Nouveau pour éclairer l'Ancien. Et non l'inverse. Il y en a qui font l'inverse. OK. Ceci étant dit, nous croyons que nous devons comprendre les passages de l'Ancien Testament à la lumière du sens établi par le Nouveau Testament. C'est très important. Alors, nous croyons que cette règle doit être maintenue. C'était les trois choix et règles qu'on avait décidé de maintenir. On avait vu que le but de la parenthèse, c'est que le Seigneur s'apprêtait à donner la septième trompette et qu'il avait besoin de venir dire à ses enfants, à son peuple, qu'avant que la septième trompette sonne, ils ont besoin d'être assurés. Et la question de mesurer le temple, là, c'est comme si Dieu avait dit à Jean, je te donne le moyen de mesurer qui sont les véritables croyants et de les départager avec les faux croyants. Il lui donne tout un travail. Il lui donne la capacité de le faire. Alors voici, on reprend de chapitre 11, versets 14 et 15. Le second malheur est passé. Voyez-vous, c'est à la fin du chapitre 11 qu'il donne que le troisième malheur arrive. N'avais-toi d'annoncer? Il y en a deux de passés. Le troisième arrive. Alors il dit, « Or, le septième ange sonna de la trompette. » Pourquoi ce passage-là, on est en train d'écrire? C'est parce que le Seigneur avait besoin d'encourager son peuple et leur dire qu'il va être avec eux durant cette période-là. Et ça va être une période extrêmement difficile. Et je pense qu'on est à la veille de rentrer dedans. On est dedans, à mon avis. Ça va devenir de plus en plus difficile pour les chrétiens. Et le Seigneur est en train de vouloir nous rappeler que durant toute la période où le témoignage de la foi en lui et en son œuvre va devenir de plus en plus opposé, de plus en plus difficile, et il veut nous rappeler qu'il va être avec nous et qu'il va nous protéger. Il va nous protéger, pas nécessairement que tout le monde va souffrir, puis la terre entière va souffrir, puis nous autres, on va être exclus. Non, on va être dedans. Et si on est dedans, moi, je me dis, on a drôlement intérêt, c'est ainsi, à se préparer, à se rapprocher du Seigneur, à réinstaller les Écritures dans nos vies, à réinstaller la prière dans nos vies, parce que ça va aller de plus en plus en se corsant. Et les souffrances, on n'ira pas descendant, ils vont s'en aller en augmentant. Et on a besoin d'être proche de Dieu. Je peux vous dire, moi j'ai la conviction très profonde que le retour du Seigneur, c'est pas dans 200 ans, c'est proche. Beaucoup, 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 beaucoup de personnes disent la même chose. Alors, on a besoin, c'est ainsi. Ce matin, je ne l'ai pas fait, je n'ai pas eu le temps. Mais il y a un verset dans Amos qui dit, en anglais, c'est « Hear the rod ». Le Seigneur tendrait de dire « Écoutez la verge ». Autrement dit, ce qu'il envoie actuellement, la pandémie, c'est une verge qu'il envoie, une verge, c'est faite pour frapper. C'est une verge qu'il envoie pour réveiller son peuple, et conscientiser les païens que ça s'en vient, la septième trompette. Et quand ça va s'en venir, quand on lit tout ce qui s'en vient, à partir du chapitre 12-13, ça va être énorme. Ce qui va se passer sur la terre, ça va être épouvantable. On ne peut même pas s'imaginer jusqu'où ça va aller. Alors, si on n'est pas prêt, c'est nous autres qui va. Alors, je crois que le but de la parenthèse, c'est que le Seigneur veut signifier à son peuple qu'ils connaîtront de grandes difficultés et de grandes souffrances à mesure que le monde et Satan augmenteront leur opposition à Jésus-Christ et à son évangile, et plus particulièrement lorsque le temps de sa deuxième venue approchera. Qu'est-ce qu'il est en train de dire, le Seigneur? Il est en train de nous dire que plus on va s'approcher de la fin, plus l'opposition va grandir, et plus on va souffrir, et plus on va avoir besoin de se rappeler que le Seigneur ne nous abandonnera pas. Même si ça nous emmenait au point où, pour choisir Dieu, il faudrait choisir notre vie, de perdre notre vie, on ne perd rien. On perd juste la vie physique du tout. C'est vrai que quand on veut vivre, moi je comprends encore plus les jeunes. Moi, mon âge, moi, m'en fous de mourir. J'ai eu quasiment hâte pour dire, pour être bien franc avec vous autres. Là. Mais je me mets à la place de quelqu'un qui a 24, 25 ans, que leur vie commence, qu'on leur annonce ces années-là qui s'en viennent. C'est pas Jojo, là. Alors, on a besoin de se rappeler que le Seigneur ne nous abandonnera pas. Et si on est véritablement sauvé, même si ça nous amènerait à donner notre propre vie pour demeurer fidèle au Seigneur, puis, quelques années de vie terrestre, avec ce qui s'en vient, il n'y aura plus grand-chose d'agréable à vivre sur cette terre. C'est déjà très difficile, mais ça va aller en grandissant. Alors, on avait dit que la mesure, le premier point, c'était sa définition. On avait parlé que la mesure... c'est très difficile. Si vous connaîtriez très bien vos Écritures, dans le sens... Je ne suis pas un blanc que je vous adresse, je fais juste dire des choses générales. Quand on parle du tabernacle, je peux dire une chose, moi je peux vous garantir que si je fais le tour du Québec, dans toutes les églises, puis je commence à questionner les gens sur le tabernacle, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça signifie, je pense que je serais déçu. Et c'est la même chose pour le premier temple, le deuxième temple, il y a plein de choses dans les Écritures qui nous sont enseignées à travers ces moyens-là, mais aujourd'hui, on est rendu, j'ai lu ça récemment, ça n'a pas bien longtemps, on dit des chrétiens modernes qui sont des illettrés bibliques. Hey, c'est pas un compliment qu'on nous fait dans ce temps-là. Là. Les illettrés bibliques. Autrement dit, si ça fait 20 ans, moi je l'ai vu de mes propres yeux, entendu de mes propres oreilles, pas une affaire que je vous invente, là. Des personnes, ça fait 25 ans qu'ils sont chrétiens, puis ils n'ont même pas lu encore une fois leur Bible d'un couvert à l'autre. Puis, en même temps, tu dis ça, c'est la parole de Dieu. Ah oui, c'est la parole de Dieu. Ça t'intéresse pas, tu l'as pas lu. Cherchez l'erreur. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, là, il faut que les gens, de plus en plus, se replongent dans les Écritures, se replongent dans la vie de prière, se replongent dans la vie de témoignage et faire ça haut et fort. Les gens autour de vous là, ont besoin de l'Évangile plus que jamais. La souffrance qu'il y a sur la terre, qu'il y a dans notre petite région, dans notre petite ville, est énorme. Puis souvent, moi le premier, là, je j'accuse pas du tout. Je fais simplement dire qu'on a tendance à s'asseoir sur notre salut et à ne pas bouger bien dans l'évangélisation. On a cette tendance-là. Ça fait 40 ans, 41 ans que je suis chrétien, puis je l'ai observé dans plusieurs églises. C'est la même chose partout. On s'est refroidi, on s'est mondanisé, et il faut se recentrer sur Jésus-Christ. Il faut! Parce que les prochaines années vont être extrêmement dures. Alors, ici, on parle, et dans le verset, la deuxième point, la mesure, sa détermination. Et l'ange se présenta et dit, « Lève-toi, mesure le temple, Dieu et l'autel et ceux qui y sont. » On a parlé qu'il y avait trois choses que l'ange demande à Jean de mesurer. Le temple de Dieu. Deuxièmement, l'autel et ceux qui y adorent. Donc, il y a trois choses qu'il lui demande de mesurer. Le temple, l'autel et ceux qui y adorent. Donc, les adorateurs. Alors, si on essaie de comprendre le temple et de déterminer si c'est du temple physique qu'on parle ou si c'est du temple spirituel, il faut absolument retourner dans l'Ancien Testament et regarder le temple, il venait d'où? Quand le temple était le temple de David, là. Le premier temple. C'était une reproduction du tabernacle. Comment peut-on comprendre le temple qu'il y avait même à l'époque de Jésus, ça c'était le deuxième temple, et même, on pourrait dire même le troisième, si on ne comprend pas les liens qu'il y a entre le tabernacle, tout parle de Christ dans le tabernacle. Moi, je l'ai fait l'étude quand j'étais à Rouyn-Noranda. On a fait une étude du tabernacle à partir d'Exode 25, aller jusqu'à 40. On a passé, je ne me souviens plus combien de leçons, au moins 30 à 40 leçons. On a étudié ça en profondeur. Tout parle de Jésus-Christ dans le tabernacle. Pourquoi les Juifs sont tellement à cheval sur leur... Parce que ça parle de Christ. Et tout est symbolique et tout parle de Christ. Mais le Seigneur avait donné le tabernacle, le premier temple terrestre, là, où il y avait des tentes, je ne sais pas si ça, plusieurs, ça vous dit quelque chose. Donc, il y avait plusieurs expressions. Alors, le temple venait d'une tentative de reproduire dans une bâtisse le premier tabernacle qu'il y avait, qui était juste des... Et moi, je vois le symbolisme de la simplicité de Christ dans le premier tabernacle. Dans le deuxième, ça, oups, les dimensions avaient changé, tout devenait plus, je dirais bien ça, plus cérémoniel. Et quand on regarde le mouvement que les choses ont pris au cours des années dans la religion, c'est à peu près ça. La simplicité de Christ est graduellement disparue. Alors, les différentes expressions du temple dans l'Ancien Testament, on va les réviser très, très rapidement. Le temple de Salomon était construit dans les années 900 avant Jésus-Christ. Alors, ça dit, David avait proposé de remplacer le tabernacle portatif par une maison permanente et il avait rassemblé les matériaux pour sa construction. Il avait été élevé sur la colline de Morija. Devinez, c'est où la colline de Morija? À Jérusalem. Puis devinez, c'est exactement le dôme est exactement là. C'est pour ça qu'ils veulent avoir le temple là. Alors, le temple, le plan du temple reproduisait celui du tabernacle, mais dans les dimensions avait été doublé et la décoration avait été beaucoup plus somptueuse. Si tu prends une étude du tabernacle, dans Exode 20, 25, aller jusqu'à 40, tu vas voir que tout était dans la simplicité. Quand ils ont reconstruit les grosses bâtisses, là, tout était plus ronflant, tout était plus gros, tout était plus somptueux. Alors, l'édifice commencé la quatrième année du règne de Salomon, fut achevé en 7 ans et 6 mois. En 587, avant Jésus-Christ, les Babyloniens se sont emparés de Jérusalem et ils ont pillé le temple, ils l'ont détruit, ils l'ont incendié et le peuple était où? À Babylone. Les dieux ont puni son peuple parce qu'ils avaient été idolâtres et ça a été la réponse de Dieu que leur temple soit détruit et qu'ils aient été envoyés à Babylone. Et on dit là combien d'années? 70 ans. Et ce Seigneur a permis que le... Alors, après ça, il y a eu le temple de Zorobabel, commencé, lui, en 537 avant Jésus-Christ. Il a été achevé en 515. Le nouvel édifice présentait le plan du temple de Salomon, mais n'en avait pas la splendeur. On peut voir ça dans Esdras, chapitre 3, verset 12. Le lieu était très saint. Le lieu très saint était absolument vide, l'arche ayant disparu avec le premier temple. Ça, pour moi, quand j'ai lu ça, j'ai dit, quel symbolisme, quel symbolisme. C'est fort, il faut le voir. Le deuxième temple, le temple de Zorobabel, le lieu très saint, l'endroit où on avait le couvert d'or et qui avait la table, la résurrection, le symbole de la résurrection, la verge d'Aaron, dans le deuxième temple, cet endroit-là était vide. Et qu'est-ce que ça représentait, ce propitiatoire-là? Ça représentait la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Le temple est là, mais Jésus-Christ n'est plus là. Ça vous pensez à quelque chose, les Juifs? Ça, c'est extrêmement... Quand on se met à regarder ça et qu'on voit le symbolisme qu'il y a là-dedans, mais c'est... Les Écritures, c'est génial. Pourquoi? C'est infiniment génial. Tout parle de Christ. Des fois, on passe par-dessus ça. On le voit pas. Mais quand on le voit, moi, quand je l'ai vu, c'est pété, ça, c'est... OK. Après ça, il y a eu le temple d'Hérode. Le temple d'Hérode, c'est le deuxième temple, autrement dit, celui de Zorobabel, que Hérode au temps de Jésus, quand Jésus est venu sur la terre, il a pris ce temple-là puis il l'a construit d'une manière monumentale. C'est énorme. Le temple qui est actuel, les murs qui sont encore présents là, à Jérusalem, c'est ce temple-là. Le temple d'Hérode, lui, on sait qu'il a été détruit quand? En l'an 70, les Romains sont rentrés, ils ont détruit le temple, et là, ils ont pris tout ce qu'il y avait à l'intérieur, dont le propitiatoire, et tout ça, ils l'ont amené. Plusieurs pensent qu'il a été amené à Rome, mais là, il n'y a pas personne vraiment qui sait vraiment. Alors, il a été détruit en 70 après Jésus-Christ. Le temple d'Hérode de Jérusalem est le nom donné aux extensions massives du second temple de Jérusalem. Donc, c'est le second temple qui a été comme beaucoup, beaucoup, beaucoup amélioré, en construction, et rénové sur le mont du temple. Celui qui était là à l'époque de Jésus, aujourd'hui, le dôme du rocher, c'est direct à cet endroit-là que le temple était en l'ancien temps. Alors, ce projet avait débuté en 19 avant Jésus-Christ et a été entièrement terminé vers 63. Il a commencé en 19, terminé en 63. C'est pour ça que quand le Seigneur il dit « Détruisez ce temple et je le reconstruirai », les Juifs ont dit « Hein? Nous autres, ça nous a pris 46 ans pour construire ça, puis toi, tu vas le détruire, puis tu vas le reconstruire en 3 jours. Ça ne tient pas de bout, ton affaire. » C'est ça qu'il est en train de dire. Mais lui, il a dit « Le temple que je parle, c'est mon corps. Que vous allez le détruire, vous allez le tuer. » Puis il va aller, puis je vais le reconstruire. Dieu a reconstruit le temple, son temple, le temple de sa vie. Alors l'illustration est très importante quand il nous dit dans à la page 6, vous avez le temple tel qu'il apparaissait à Jérusalem quand Jésus est venu. Et si vous allez le parvis des gentils, si vous regardez sur l'illustration, c'est marqué en anglais. En haut, c'est marqué « Court of the Gentiles ». Puis, complètement en bas, vous avez une autre indication qui est marquée « Court of the Gentiles ». C'est quoi? C'est le parvis des gentils. C'est cette partie-là que l'apôtre dit « Ne mesure pas ça ». Parce que c'était le temple, c'était l'endroit où les non-croyants... Les non-croyants avaient le droit d'aller là, mais ils n'avaient pas le droit de rentrer dans le temple, parce que si quelqu'un, un juif, amenait un non-croyant là, puis il faisait rentrer dans le temple, tout l'épisode, quand que Paul avait amené Trophime, ils ont voulu, t'as vu la colère des juifs, ils voulaient le tuer, ils ont dit, tu profanes le temple, puis lui, il n'avait pas fait rentrer là. Il avait été vu au parvis des gentils. Et là, les Juifs voulaient le tuer à cause de ça. Parce que on riait pas que ça dans ce temps-là. Là. Alors, on va vous lire ce qui est marqué en bas de l'illustration de la page 6. Là. Il est important de situer le parvis des gentils sur l'illustration. Alors, si tu ne comprends pas, il est où là? Il est aux deux endroits, ce que c'est marqué « Court of the Gentiles ». Autrement dit, c'était à l'extérieur du temple. C'était un peu comme si tu emmènes quelqu'un sur le perron de l'église. Mais tu ne le laisses pas rentrer en dedans de l'église. Alors, l'image du parvis nous renvoie d'abord au temple de Jérusalem, construit par Hérode le Grand. Outre les zones réservées aux membres du peuple d'Israël, qui sont au nombre de 3 espaces, à savoir le Saint des Saints, le lieu sacré est réservé au culte et vers lequel le peuple d'Israël se tournait pour rencontrer Dieu et où seuls les prêtres avaient le droit de pénétrer. Il y avait aussi une cour pour les hommes. Il y avait aussi une cour pour les femmes et les enfants qui n'avaient pas encore fait ce que les Juifs appellent leur bat mitzvah. Leur bat mitzvah, c'est comme un engagement, une compréhension de quelle religion ils se trouvent. C'est un peu comme l'équivalent un peu pour les catholiques, de la confirmation. C'est quand ils arrivent à 12-13 ans, les gars, les filles sont obligés de passer par leur bat mitzvah. Et il y avait une cour qui était réservée aux non-juifs. C'est de ça qu'on parle ici. Le Seigneur dit, la cour, le parvis des gentils, ne le mesure pas. Cette cour s'appelait le Parvis des Gentils. Ce Parvis des Gentils était donc un espace où tous pouvaient se rendre sans distinction de culture, de langue, de profession religieuse. Autrement dit, autour du temple, peu importe qui tu étais, que religion, langue, tu avais le droit d'aller là. C'était un lieu où il était possible de s'interroger sur les grandes questions du sens de la vie et de la vie en société, et ainsi se rapprocher du Dieu inconnu. Alors, les nations avaient le droit d'aller sur ce terrain-là. Mais, chose importante, les nations, par rapport aux Juifs, c'était des incroyants. Il dit, ne mesure pas le temple, le parvis des gentils. Alors, les trois choses que l'apôtre doit mesurer, mesure le temple, mesure l'autel et ceux qui y adorent. La première chose à mesurer, le temple de Dieu. Dans l'Ancien Testament, le temple terrestre était l'endroit où Dieu habitait. En anglais, ils disent « God's dwelling place ». Et il manifestait sa puissance et sa présence. Seuls les véritables croyants pouvaient y pénétrer pour l'adoration. Autrement dit, dans le centre, quand vous voyez l'image là, du temple, c'était pas n'importe qui pouvait rentrer là, il fallait que tu sois un juif confirmé. Si tu rentrais là, puis tu étais un païen, c'était la mort. Pour celui qui l'avait emmené là, puis c'était la mort pour le païen aussi. Il y a quelque chose de très symbolique là-dedans. Alors, dans le Nouveau Testament, est-ce que le temple, c'est encore un endroit? Est-ce que c'est encore un temple physique? Ou si c'est Dieu qui nous habite? On est le temple du Saint-Esprit. Jésus était le temple du Saint-Esprit. Alors, ça dit dans le Nouveau Testament, Dieu habite dans le cœur des véritables croyants. Jean, chapitre 2, versets 19 à 21. Jésus répondit et leur dit, « Abattez ce temple, et je le relèverai dans 3 jours. » Les Juifs lui dirent, « On a été 46 ans à bâtir ce temple, et tu le relèveras dans 3 jours. » Mais il parlait du temple de son corps. Oh! Là, on vient de changer de registre. On n'est plus dans le domaine du matériel, on n'est plus dans le domaine des bâtisses. On est dans le domaine que Dieu a décidé que maintenant, le temple de Dieu, c'était plus un endroit physique, c'était plus un temple en pierre, c'était un être humain, Christ. Mais on va voir aussi que non seulement ça s'étend à Christ, mais à tous ceux qui sont en lui. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Donc, il est où le temple aujourd'hui? À l'intérieur de nous, dans le cœur. Car on est véritablement régénéré, la Bible nous dit que le Saint-Esprit nous habite, et le Saint-Esprit est en Dieu, si Dieu nous habite, on devient le temple. Très important. Qui est en vous et qui vous a été donné de Dieu, et que vous n'êtes point à vous-même. Autrement dit, il est en train de nous dire, on ne s'appartient pas, on appartient à Dieu. Éphésiens, chapitre 2, versets 19 à 21. Ainsi, vous n'êtes plus ni des étrangers, ni des gens de dehors, mais concitoyens des saints et de la maison de Dieu. Il est en train de parler des croyants, puis il dit qu'on est la maison de Dieu. C'est une bâtisse, nous? C'est le cœur, c'est exactement. Étant édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes, dont Jésus-Christ est la pierre angulaire. Jésus était le temple du Saint-Esprit, et c'est lui la pierre angulaire. C'est la pierre angulaire, c'est celle sur laquelle tu t'appuies pour tout construire la balance du temple. Puis la balance du temple, c'est qui? C'est nous. Ça dit, étant la pierre angulaire, verset 21, « En qui tout l'édifice, où tu nous compares à un édifice, parce que la pierre angulaire est là, puis c'est nous qui fait la construction du nouveau temple de Dieu. » En qui tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint au Seigneur. Qu'est-ce que c'est en train de nous enseigner? Le temple, c'est Christ et ceux qui sont en lui, ceux qui lui appartiennent. C'est ça le temple. Parce que ça dit dans le verset 22, « En qui aussi vous êtes édifiés ensemble pour être la maison de Dieu par l'Esprit. » C'est important de saisir ça, là, parce que si on ne fait pas, le switch entre les bâtisses et nous, on manque de bâton un peu. Là. 1 Pierre, chapitre 2, versets 4 et 5. En vous rapprochant de lui, qui est la pierre vivante, rejetée des hommes, mais choisie de Dieu, et précieuse, vous aussi, comme des pierres vivantes. Le Seigneur est en train de dire que les pierres qui construisent son nouveau temple, c'est des êtres humains régénérés par le Saint-Esprit. C'est nous. Parce qu'il dit, et vous aussi, comme des pierres vivantes, vous êtes édifiés pour être une maison spirituelle, une sacrificature sainte, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Alors, dans la vie éternelle, Dieu lui-même et l'agneau vont être le temple, comme ça nous dit dans Apocalypse 21, versets 22-23. On appelle la Sainte Jérusalem. Je n'y vis point de temple. Il parle de quand on va être rendu au ciel. Je n'y vis point de temple, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant et l'agneau en sont le temple. Et la ville n'a pas besoin de soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Autrement dit, quand on va être rendu au ciel, il n'a plus besoin de temple. Parce que Dieu lui-même et Jésus-Christ vont être la lumière, n'ont plus besoin de lumière de quelque forme que ce soit. La deuxième chose à mesurer, l'autel. Dans le tabernacle, l'autel des parfums était situé devant le rideau, séparant le saint du saint des saints. Je ne sais pas si ça vous dit de quoi. Le rideau, il y avait trois choses dans la partie saint. Il y avait trois choses. Hein? La table des peines de proposition, le chandelier, et en avant du rideau qui séparait le saint du saint des saints, il y avait l'autel des parfums. Il dit de mesurer l'autel. Il dit, dans le tabernacle, l'autel des parfums était situé devant le rideau séparant le saint, où se trouvait le chandelier d'or à cette branche, et la table des peines de proposition. Dans la partie saint des saints, se trouvait le propitiatoire. Qu'est-ce que c'était le propitiatoire? Un coffre d'or. Dont toutes les mesures sont données dans Exode, un coffre d'or dans lequel il y avait trois choses très symboliques. La chose d'Aaron, il y avait la manne, et il y avait aussi les tables de la loi. Et tout ça, c'est hautement symbolique. Alors, l'autel des parfums symbolisait l'adoration et les prières des saints qui sont les véritables croyants. La troisième chose qu'il demandait, de mesurer ceux qui y adorent. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même a affirmé que les faux adorateurs se mélangeront avec les vrais adorateurs. C'est pas nouveau, c'est encore aujourd'hui. Matthieu 27, versets 50 à 52. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Quel voile du temple qui s'est déchiré?
Le voile du temple, la
bâtisse. Mais en même temps, en mourant, c'était lui, il devenait le temple, c'était... En mourant, le voile du temple, ce qui séparait le saint du saint des saints, se déchirait sa vie. Et symboliquement, le Seigneur, le Dieu, le Père, a permis qu'au moment même où Christ a expiré, le gros rideau, ce rideau-là, ça mesurait 2 pouces d'épais, semble-t-il. Il s'est déchiré de haut en bas. La symbole est tellement gros, tu pourrais t'expliquer? Dieu déchirait. Parce qu'avant, il y avait juste le souverain sacrificateur qui pouvait entrer dans le Saint des Saints et uniquement une fois par année. C'était pas n'importe quel sacrificateur, là. Le souverain sacrificateur pouvait rentrer une fois par année. Et quand ça s'est déchiré, le Seigneur est en train de montrer que la voie qui nous permettait d'entrer dans la présence de Dieu, Jésus l'avait ouverte pour nous. Très important, très intéressant. Et aussi, dans Jean 4, versets 20 à 24, Jésus parle encore de ce phénomène-là avec la femme samaritaine. Elle a dit à Jésus, « Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit, « Femme, crois-moi, le temps vient où vous n'adorerez plus le Père, ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. » Pour nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, Et elle est déjà venue. Très important, là, réaliser ça. L'heure vient et elle est déjà venue que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car le Père demande de tels adorateurs. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Autre passage, Hébreux 10, verset 19. Ayant donc, frères, la liberté d'entrer dans le sanctuaire, qu'est-ce qui nous permet aujourd'hui avant, ça prenait que le souverain sacrificateur qui pouvait rentrer dans le Saint des Saints. Ça nous dit, c'est que nous, on peut rentrer maintenant. Ça nous dit, ayant donc, frères, la liberté d'entrer dans le sanctuaire par le sang de Jésus, chemin nouveau et vivant, qu'il nous a frayé à travers le voile, c'est-à-dire sa chair. On fait-tu le lien, là, entre le déchirement du voile physique, 2 pouces d'épais, et sa vie qui se déchirait, sa vie physique, parce que ça dit ici, là, qu'il nous a frayé à travers le voile. Puis là, ça nous dit, c'est quoi le voile? C'est-à-dire, à travers sa chair. Quand sa vie s'est brisée, Dieu a montré que maintenant, on a accès au Saint des Saints. Ce qu'on n'avait pas avant. Seul le souverain sacrificateur. Et pas n'importe quel temps, c'était juste une fois par année. Comment maintenant pouvons-nous départager les vrais des faux? Autrement dit, ce qu'il est en train de dire, mesure le temple, autrement dit, les adorateurs, l'autel et les croyants. Autrement dit, mesure ceux qui sont des véritables croyants et ne mesure pas ceux qui ne le sont pas. Autrement dit, ceux qui ne sont pas des véritables croyants en Jésus-Christ, il lui demande de même pas s'en occuper. Matthieu 13, versets 24 à 30. Et là, on fait le lien avec aujourd'hui. Jésus leur proposa une autre parabole en disant, le royaume des cieux est semblable à un homme qui avait semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les hommes dormaient, son ennemi vint qui sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Et après que la semence eut poussé et qu'elle eut produit du fruit, l'ivraie parut aussi. Alors les serviteurs du père de famille lui vinrent dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Et il leur dit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui répondirent, « Veux-tu donc que nous allions l'accueillir? » Et il dit, « Non, de peur qu'en cueillant l'ivraie, vous arrachiez le froment en même temps. Laissez-les croître tous deux ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai aux moissonneurs, cueillez premièrement l'ivraie, liez-les en faisceau pour la brûler, mais assemblez le froment dans mon grenier. » Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Durant tous les siècles, il va y avoir dans les églises qui vont se côtoyer des vrais croyants avec des faux croyants. Et là, les gens ont dit, « Ben oui, mais veux-tu qu'on y aille les enlever, les mauvais? » Laissez l'affaire. Ils ont leur propre responsabilité. Laisse-la croître ensemble, puis à la fin, moi, je vais faire le ménage. Moi, je sais qui m'appartient, puis je sais qui ne m'appartient pas. Alors ici, il faut faire le lien avec ce qu'ils demandent. Les faux croyants, ils demandent de ne pas y mesurer. Qui ne fera pas partie de la protection, donc il veut qu'ils sachent qu'ils vont avoir? Ceux qui ne sont pas des véritables croyants. Les véritables croyants se distinguent des faux par les caractéristiques suivantes. Premièrement, ils vivent tous les aspects de leur vie avec la gloire de Dieu pour objectif ultime. Une caractéristique. Deuxième caractéristique, ils ajustent leurs pensées, leurs paroles et leurs actions par les Saintes Écritures. L'obéissance, la sanctification et tous les actes de la vie deviennent adoration et soumission à la volonté de Dieu. Troisièmement, toutes leurs affections sont tournées vers Dieu. La troisième, très intéressant, la délimitation dans le verset 2. Je vais aller très rapidement parce qu'on n'aura pas le temps de le finir cette semaine. Alors, et le parvis qui est en dehors du temple, rejette-le, ne le mesure point, car il est donné aux gentils, et elles fouleront aux pieds la cité sainte. Je vous laisse terminer parce que le mot grec, ekbalé, ça veut dire rejette-le. Alors, il y avait une cour qui était réservée aux non-juifs, on en a parlé tantôt. Je vous laisse lire ça, pour le reste, on le terminera, vous le terminerez par vous-même dans la lecture de ça. Autrement dit, l'idée, le Seigneur est en train de dire à Jean, mesure le temple des véritables croyants, fait la part des choses, distingue-les des faux croyants. Rejette-le. Et il y avait une instruction, ça je vous l'ai dit, parce que je trouve qu'elle est importante, parce que il y a un archéologue qui s'appelle Clermont-Garneau, à Jérusalem, en 1871, qui a fait sur l'esplanade où se dressait autrefois le temple d'Hérode, il a trouvé un texte, les mots exacts qui est écrit dessus, je vous les donne, là. Que nul étranger, autrement dit un non-juif, ne pénètre à l'intérieur de la barrière qui entoure le sanctuaire, le contrevenant qui serait pris ne pourrait que s'imputer à lui-même la mort qu'il subira. À ce temps-là, un incroyant ne pouvait pas se permettre de rentrer dans les choses saintes. C'était un peu ce que le Seigneur est en train de leur dire aussi. Alors, si on interprète, si on accepte l'interprétation idéaliste qui est symbolique, Jean se voit indiquer que la protection divine des jugements à venir dans la septième trompette se limitera aux seuls authentiques croyants. Misère, je pense que je vais arrêter là. On va arrêter là.